Tout d'abord, en introduction, je dirais que, et je tiens à insister là-dessus, c'est que je pense que les premières années de ma carrière professionnelle en tant qu'artiste, tout d'abord, puis en tant qu'également musicothérapeute, je pense que j'ai été tout à fait lamentable, c'est-à-dire que je n'avais aucun questionnement éthique, ni aucune réflexion sur une déontologie professionnelle relative à ces métiers d'artiste et également donc de musicothérapeute. Des métiers que pourtant j'ai exercés pendant de nombreuses années. À titre d'exemple, en tant qu'artiste, je me suis jamais interrogé à l'époque sur savoir donc si les scènes et les salles et les scènes, j'insiste aussi sur les scènes, les salles et les scènes, étaient-elles accessibles aux personnes handicapées ou pas. C'est un peu comme si finalement un chauffeur de bus ne s'interrogerait pas aujourd'hui savoir si son bus est accessible aux noirs, aux jaunes, aux personnes en fauteuil roulant. En tout cas, en tant qu'artiste, je n'avais aucune interrogation là-dessus. Pas plus d'interrogation, savoir si des personnes malades, handicapées, avaient la possibilité d'accéder au même métier que j'ai toujours d'ailleurs, en tant qu'artiste. Donc, un accès à l'enseignement, à l'éducation, à l'enseignement artistique et au métier. Je n'avais aucune de ces interrogations-là. Et puis, en tant que musicothérapeute, même si j'étais impressionné au début par les apports d'activités de prise en charge en musicothérapie que j'avais mis en place en neurochirurgie, en neurologie, en psychiatrie, je me suis intéressé assez peu au début, non plus de savoir si finalement les personnes que je prenais en charge, est-ce qu'elles avaient, c'est une question qu'a déjà soulevée Monique, donc est-ce qu'elles avaient la possibilité ou pas dans leur vie de tous les jours, d'accéder comme tout citoyen à une vie artistique, à des pratiques artistiques et culturelles, quoi. Alors, par contre, c'est vrai qu'en tant que musicothérapeute, assez vite quand même, étant confronté à des, oui, je dis confronté parce que donc c'était des difficultés, des personnes avec des handicaps lourds, hein, des personnes traumatisées crâniennes, cérébro-lésées, des personnes avec des formes d'autisme sévères, j'étais confronté donc à des problématiques d'accessibilité, dont j'ai été amené, bah, accessibilité au niveau d'ailleurs d'instruments que je pouvais utiliser ou pas, de musique, et donc et pour chanter par exemple, pour utiliser la voix. Et donc je me suis quand même assez rapidement intéressé à ce qui existait comme savoir-faire en accessibilité culturelle, artistique, et aussi en termes de réglementation sur l'accessibilité et les droits culturels. C'est ce qui d'ailleurs finalement, puis j'ai constaté du coup quand j'ai cherché des réponses, qu'il y avait des réponses, mais qu'il y avait aussi beaucoup de manques. C'est ce qui m'a conduit en 1985 à créer, avec divers amis, enfin des amis d'horizons assez variés, de créer Sémaphore, qui est devenu rapidement Centre national de ressources pour l'accessibilité culturelle reconnu par le ministère de la Culture. Et donc dans ma pratique de musicothérapeute, je me suis aussi rendu compte assez vite que ça questionnait aussi, en tant que art-thérapeute, musicothérapeute, sur les relations à avoir avec les professionnels de la culture et de l'animation. Je donnerai trois exemples. Voilà, je me souviens donc en neurochirurgie, par exemple, d'un grand adolescent qui ne pouvait plus du tout ni bouger les bras, les jambes, contrôler aucun geste, qui ne pouvait émettre aucun son vocal. Mais on s'est rendu compte, au bout de plusieurs séances, qu'il pouvait en effet jouer de l'harmonica quand on lui tenait ou quand on lui installait un porte-harmonica, et qu'en fait on constatait qu'il avait gardé toute sa conscience puisque il pouvait exécuter, jouer des morceaux à la demande, certains airs, donc on voyait qu'il avait toute sa conscience. Mais là, ça posait bien la question de se dire finalement, est-ce qu'on va, une fois qu'on est très content d'avoir constaté ça, est-ce qu'on va se dire, bon, bah oui, on va lui apporter l'harmonica une fois par semaine pendant une séance de musicothérapie? Donc on voit bien là que ça posait la question, en effet, de cet accès, donc, dans le cadre des loisirs et d'une pratique même amateur, qui va résoudre le problème. Je citerai un deuxième exemple, c'est à l'hôpital de Garges d'ailleurs, en service de neurologie, où là, une femme âgée qui avait eu un accident vasculaire cérébral et qui avait une hémiplégie, avec aphasie totale, donc elle ne pouvait pas prononcer un mot, mais on a constaté, donc j'ai constaté pendant les séances qu'elle pouvait en effet jouer encore du piano, donc de la main gauche. Et en plus, ce qui avait intrigué d'ailleurs les médecins, c'est qu'elle pouvait instantanément transposer une partition qui était prévue pour jouer pour la main droite, pour la jouer pour la main gauche. Là encore, je dirais que d'autant plus dans cet état de souffrance de ne plus pouvoir du tout parler et d'avoir une hémiplégie, donc avec un handicap moteur lourd, est-ce qu'on allait se dire, oh bah oui, c'est super et c'est intéressant hein, pour la connaissance de la musique et du cerveau, bah, une fois par semaine, on va lui apporter un clavier et puis c'est tout. Est-ce qu'il fallait pas se poser la question de, au sein de l'hôpital et après à son domicile, est-ce qu'elle pouvait ou pas avoir un accès à un piano, par exemple? Et dernier exemple, je dirais, en psychiatrie, avec un adolescent autiste qui n'avait pas eu accès encore au langage, mais on a constaté, donc après plusieurs séances, qu'il avait vraiment, je dirais, une fibre, une affinité avec la danse. Là encore, est-ce qu'on se disait, bah oui, bon, on a découvert ça pendant l'activité de musicothérapie une fois par semaine, mais est-ce qu'il n'était pas important de réfléchir si on, il ne pouvait pas être orienté vers donc l'activité de danse, y compris en milieu ordinaire. Donc, bah, à chaque fois, on essayait d'entreprendre des démarches. Mais on voit bien là, déjà, ça m'a aidé à prendre conscience, en tous les cas, déjà, de cette nécessité d'une articulation entre les professionnels de l'art-thérapie et les professionnels de l'animation et de l'action culturelle et artistique. Par ailleurs, j'ai eu, à un moment donné, donc, une responsabilité également d'un grand espace musique et d'une radio FM dans un plus grand centre gériatrique à l'époque d'Europe, l'hôpital Charles-Foix, qui fait partie du groupe La Pitié-Salpêtrière. Et là, j'y étais pas en tant que musicothérapeute, mais en tant que donc pour faire de l'action culturelle et artistique. Mais j'ai eu l'avantage de bénéficier d'équipements tout à fait professionnels, comme dans un lieu culturel où en général on n'a pas juste trois maracas et un tambourin. Et donc avec tout un équipement très performant et qui permettait donc aux personnes âgées en manque d'autonomie de pouvoir à la fois jouer, chanter, être enregistrées, s'exprimer pour les émissions de radio, etc. Et puis écouter aussi dans de bonnes conditions. Et donc là, j'ai pris conscience aussi d'un autre élément pour moi qui est très important, c'est le rôle d'un environnement capacitant, la nécessité d'un environnement capacitant, et puis d'autant plus aussi cette question de l'égalité, je veux dire, en termes d'environnement, entre ce qui est la manière dont sont dotées en équipement les institutions sanitaires, médico-sociales en général et les lieux culturels professionnels. Donc, toutes ces expériences professionnelles que j'ai eues en tant qu'artiste et aussi en tant que musicothérapeute ont nourri mes réflexions. Et aussi m'ont amené à être d'autant plus peut-être, j'allais dire, inquiet et alerté face à des dérives que je pouvais observer au niveau à la fois, et d'ailleurs dans le cadre de très très nombreuses actions menées par Sémaphore pendant une quarantaine d'années, dans de très nombreuses institutions sanitaires, médico-sociales et de lieux culturels. Et donc j'étais un peu vigilant et alerté sur des dérives dans l'art-thérapie et aussi, je dirais donc concernant des violations des droits culturels. C'est ce qui m'a amené aussi donc aujourd'hui à vous proposer bon une intervention qui va se faire en trois points. J'irai premier point finalement une sorte de typologie que j'ai pu identifier de postures d'art-thérapeutes qui peuvent interroger l'éthique et la déontologie professionnelle. Et puis en deuxième point, j'irai essayer de réfléchir sur un peu les origines de ces dérives. Et en troisième point, quelques préconisations pour essayer de sortir de cette situation. Alors, en termes de typologie des dérives, je dirais qu'il y en a qui portent déjà atteinte plutôt à l'identité professionnelle des art-thérapeutes, et il y en a aussi qui portent sur des postures qui portent atteinte aux droits des personnes. Et des personnes qui, on le sait, sont en général des personnes vulnérables, celles qui sont prises en charge donc en art-thérapie. Au niveau des postures qui portent atteinte à l'identité professionnelle de l'art-thérapie, ça a déjà été évoqué par les intervenantes précédentes, cette problématique. Moi, je dirais qu'on peut au moins identifier ce type de substitution professionnelle. C'est-à-dire qu'on voit des art-thérapeutes, alors art-thérapeutes, musicothérapeutes, danse-thérapeutes, etc., qui s'affichent en tant que tels, donc en tant qu'art-thérapeutes, mais qui, dans la réalité, en effet, vont animer des actions, soit des activités, soit d'animation occupationnelle, voire d'animation socioculturelle, d'artistes intervenants, de l'accompagnement culturel. Également, donc, dans certains cas, finalement, le métier de coach en développement personnel, mais toujours sur l'étiquette art-thérapeute, et aussi toujours sur l'étiquette art-thérapeute, on voit aussi des personnes qui sont affichées, donc référents handicap, mais en tant qu'art-thérapeute dans des conservatoires. Donc, on voit que là, ce sont toutes des activités professionnelles qui, selon moi, en tous les cas, n'ont rien à voir avec l'art-thérapie, puisqu'elles ne posent pas d'objectifs thérapeutiques ou de rééducation, elles ne définissent pas de protocole de prise en charge et elles ne pratiquent pas d'évaluation régulière au regard d'une amélioration de l'état de santé. Et donc, elles ne sont pas conformes, en tous les cas, à la fiche, notamment sur les arts thérapeutes qui est proposée par l'ONICEP ou ni au code de déontologie du SFAD, du syndicat. Donc là, c'est quand même un gros souci parce qu'en plus, ce sont des dérives là qui ne sont pas juste quelques dérapages sporadiques, mais ce sont dans des milliers de structures, c'est extrêmement répandu. Et on le trouve, ces dérives, en effet, dans des maisons d'accueil spécialisées qui accueillent des personnes pour handicapées, des centres d'accueil du jour pour des personnes Alzheimer ou personnes handicapées mentales, etc. Dans des EHPAD, répandu, des foyers de vie, etc. Donc, toutes ces pratiques sont très, très répandues, y compris, je l'ai dit, dans des lieux culturels comme des conservatoires, ou aussi, ça se développe de plus en plus, dans des musées, qui affichent, en effet, même pour deux, trois sorties à l'année, une activité d'art-thérapie, qu'ils appellent maintenant aujourd'hui aussi de la muséo. Thérapie. Donc là, c'est un souci parce que, en fait, d'une part, ça provoque des situations pour les personnes vulnérables qui sont prises en charge d'une absence d'égalité de traitement et d'égalité des chances par rapport à l'accès à la culture. Parce que, en fait, d'une manière générale, les art-thérapeutes ne sont pas tous formés pour animer de l'action culturelle artistique ou des animations, etc. Donc là, ça veut dire qu'on est sur une inégalité de traitement, c'est une forme de discrimination culturelle. C'est un problème. Par ailleurs, des institutions sanitaires médico-sociales instrumentalisent également, dans certains cas, la présence d'activités d'art-thérapie dans leur établissement comme une sorte de caution culturelle et ça leur évite de s'engager réellement dans la construction d'un véritable projet culturel d'établissement. Et du coup, le résultat, de manière générale, c'est que ça fait partie des obstacles au développement en France de réelles politiques culturelles inclusives. Donc, on voit que les conséquences sont pas moindres. Et évidemment, ces processus de substitution interrogent l'éthique et, je dirais, les valeurs de rigueur, d'honnêteté de la part des art-thérapeutes et de courage. Alors le courage, certes, c'est vrai que c'est difficile parce que ça a été évoqué, les pressions des institutions, la peur de perdre son gagne-pain, son emploi, et puis aussi, ça interroge, je dirais, les capacités, finalement, à trouver, à développer des stratégies pour faire face à ces situations, je dirais des stratégies individuelles et aussi des stratégies collectives. Et c'est là où je pense que les syndicats, enfin le syndicat, le SFAP, mais d'autres instances ont un rôle à jouer pour essayer de faire face à ces situations. Et je suis heureux, bien sûr, qu'il y ait cette table ronde aujourd'hui, parce que je pense que ça favorisera sans doute des dynamiques de stratégie collective pour éviter qu'on en reste là face à ces situations de substitution généralisée de professionnels d'animation culturelle et de la culture. Alors,
Merci
autre
André.
point,
Je
oui.
me permets juste de rappeler pour tenir un petit peu le timing. Il reste encore 5 minutes, comme ça on aura bien un quart d'heure de questions-réponses. Voilà, encore 5 minutes, si
Alors
ça.
c'est de la haute voltige, mais je vais essayer. Alors, très rapidement,
Oui.
je vous dis que donc, je l'ai évoqué, il y a d'une part ces postures qui portent atteinte à l'identité professionnelle des art-thérapeutes, mais il y a aussi donc des postures qui portent atteinte à certains droits fondamentaux. Alors, pour aller vite, je dirais qu'il y a le droit à l'information, au libre choix de son projet de vie et de son projet de soins, et le droit à l'autodétermination. Et on peut s'interroger, enfin, on peut se poser la question, est-ce que les art-thérapeutes, lorsque finalement ils prennent en charge dans l'activité, dans des centres d'accueil du jour, il s'agit, etc., des différents lieux, des hôpitaux, services psychiatriques, services gériatriques, quand ils prennent en charge des activités, mais est-ce qu'ils s'interrogent sur la manière dont les personnes qui prennent en charge ont été informées sur l'art-thérapie et la manière dont ils ont accepté ou choisi cette activité. Je dis dire activité, souvent on parle d'atelier et non pas de séance, contrairement aux kinés, aux orthophonistes, aux psychomotes. Mais donc, et là, ça interroge quand même, parce que du coup, on peut penser que parfois, ces personnes avaient plutôt envie peut-être juste d'avoir une activité artistique et de plus un milieu ordinaire, mais que face à l'absence de propositions dans ce sens, il se trouve finalement que ce sont les activités de l'art-thérapie qui sont sous le coup d'une discrimination culturelle et en plus sur le coup, je dirais, d'un conflit d'intérêts parce que l'intérêt de la personne prise en charge, c'est que ses droits soient respectés et s'il a envie d'avoir une activité artistique en milieu ordinaire, c'est son droit. Et par contre, l'intérêt de l'art-thérapeute, dans certains cas, bien sûr, c'est de placer une prestation. Autre question, les droits culturels. Alors là, j'aurais bien aimé en parler plus longuement, mais je rappellerai simplement aussi que la citoyenneté culturelle, ça repose sur le fait notamment. Bon, la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à la culture, mais aussi sur la question du service public de la culture. Dans la plupart des institutions sanitaires médico-sociales, pour le moment, il n'est pas respecté. C'est-à-dire que la continuité, par exemple, de l'accès à l'enseignement artistique n'a pas été organisée pour les personnes qui vivent en isolement contraint. Et donc là, ça fait souci par rapport à cette substitution des professionnels de la culture par des art-thérapeutes. Le troisième point aussi, je suis obligé d'aller très vite, donc c'est le fait aussi que il y a des philosophes, et là je pense à Frédéric Worms, je vous conseille un podcast qu'il a fait notamment sur France Culture, où il parle du fait que ce qu'on appelle les philosophes de la liberté ont indiqué qu'il était tout à fait néfaste, dangereux et inacceptable de réduire une personne à une de ses caractéristiques, et notamment de réduire des personnes malades à leur maladie ou des personnes handicapées à leur handicap. Et autant sur le plan éthique, il faut évidemment traiter les maladies, mais aussi au niveau éthique, on ne peut pas réduire une personne sa maladie. Et on voit des institutions sanitaires médico-sociales où tout est transformé en thérapie du matin au soir. Le repas thérapeutique, le jardin thérapeutique, la zoothérapie, des ateliers d'animation sont devenus, sans changer de contenu, des ateliers psychosociothérapeutiques, etc. Donc ça aussi, je pense, c'est un rôle des art-thérapeutes de prendre conscience de ce processus et de montrer la différence qu'il y a entre l'art-thérapie et des activités quotidiennes où on a finalement transformé ça en activités dites thérapeutiques. Et donc là, c'est un point aussi qui est important. Alors, je n'ai pas le temps d'attarder sur les origines de ces processus, malheureusement, mais je dirais que les origines sont nombreuses. Il y en a une, je viens de l'évoquer, c'est le fait qu'il n'y a pas de politique culturelle réellement inclusive, et notamment pas de continuité d'accès au service public de la culture pour les personnes qui vivent en isolement contraint. Ça a été un peu évoqué aussi par Monique, il n'y a pas suffisamment de formation d'activité culturelle et artistique, et notamment de reconnaissance de statut pour les métiers de l'accompagnement culturel, comme responsable culturel hospitalier, enfin tout ce qui touche au secteur sanitaire médico-social. Les origines, bon, il y a ce qu'on appelle la pensée magique, hein, qui fait que finalement on pense que l'art se suffira à lui-même pour être thérapeutique. Et puis, et donc, il y a beaucoup de questions aussi de confusion entre différents concepts, entre notamment des activités qui peuvent avoir des effets thérapeutiques et des activités qui ont pour objet la thérapie, la confusion entre handicap et maladie, entre cure et care, etc. C'est très nombreux. Et puis la confusion, en effet, entre l'animation occupationnelle, l'animation socio-culturelle, l'action culturelle et artistique et l'art-thérapie. Je n'ai pas le temps d'expliquer ce qui les caractérise toutes, mais il faut vraiment que les art-thérapeutes se forment là-dessus. Et enfin, ce qui génère une grande confusion, c'est toutes ces publications, ces colloques, ces formations, qui génèrent, vraiment des grandes confusions. Dans un même ouvrage, on peut trouver sur l'art-thérapie des professionnels, des psychiatres, des psychologues qui disent que oui, l'art-thérapie, ça existe, d'autres qui disent que ça n'existe pas dans un même ouvrage. D'autres qui disent que de toute façon, l'art-thérapie, c'est exactement la même chose que les activités artistiques, etc., etc. Et donc, il y a beaucoup de processus. Sur les droits culturels, je voudrais revenir sur ce qu'a évoqué tout à l'heure Diacker, à un moment donné, qui était intéressant. Quand elle parlait du fait qu'évidemment, un professeur de théâtre peut considérer dans une institution que de toute façon, ben, ça apporte des bienfaits. Mais souvent, les institutions n'ont pas une bonne connaissance des droits culturels et l'OMS continue aussi à propager quelque chose d'un peu pas très clair. C'est-à-dire que les droits culturels n'ont pas à être légitimés par le fait de dire oui, ça fait du bien. Il y a des activités culturelles et artistiques qui peuvent être nocives. Il y a des chanteurs qui sont morts très jeunes. Il y a des Michel Petrucciani, quand il jouait du piano, il se fracturait parfois même le bassin et souvent les doigts. Aucun médecin ne l'aurait pu lui interdire de jouer du piano. Le droit à la culture, c'est un droit humain fondamental. Ça n'a pas à être légitimé par le fait que ça fasse du bien. Et dans certains cas, ça fait du mal. Les professions qui ont le plus de maladies professionnelles sont notamment les danseurs et les musiciens. Ça, c'est peu connu, c'est comme ça. Donc, il faut pas confondre le fait qu'il faudrait légitimer les droits culturels parce que ça fait du bien. Et ça, c'est un grand danger. En termes brièvement de préconisations, moi, j'en ferai quatre ou cinq. D'une part, le fait que, bien sûr, dans le code de déontologie, des arts thérapeutes, je pense qu'il faudrait préciser, beaucoup plus, développer qu'est-ce que c'est que cette notion de thérapie et de rééducation. Préciser aussi qu'il y a un article qui puisse préciser les types de coopération, de rôle que peut jouer un art thérapeute de coopération avec les animateurs socioculturels, les professionnels de l'action culturelle et artistique. Qu'on puisse, dans les formations, introduire, bien sûr, la question de l'éthique, des droits culturels, de la citoyenneté culturelle. Qu'également, bien sûr, que puisse se faire entendre la parole de la corporation sur ces dérives de manière plus forte. Et donc, dans la conclusion, je veux dire aussi qu'il faut profiter du fait que la santé mentale a été inscrite, déclarée grande cause nationale par le Premier ministre. Ça va être l'occasion de débat. Et je pense qu'il faut que ce débat qu'on a aujourd'hui sur la place de l'art, de la culture en lien avec le soin et la santé, fasse l'objet donc d'un prolongement et d'un débat élargi. Il faut vraiment que ce débat soit introduit parce que c'est au-delà de l'art-thérapie qu'il y a de grandes confusions. Je pense aussi à tout ce qui se développe au niveau de la culture sur ordonnance, qui est assez hallucinant. Et ça va jusqu'aux déclarations récentes de la présidente du groupe Radio France, dans un interview, un entretien avec le Figaro, qui a déclaré que son groupe Radio France propose en fait un bouquet de radios qui sont des radiothérapies. Et elle a développé ça. Moi, disons que, en tant que musicothérapeute, j'ai trouvé que c'était un métier d'une richesse assez exceptionnelle. Et je suis triste de voir tous ces dérapages qui ne sont pas que sporadiques, qui sont une crise larvée et étouffée dans l'art-thérapie, mais qui rejoint ce qu'a dit dans son avis 140 le Comité consultatif national d'éthique, hein, qui a déclaré que la France connaît en effet une crise sanitaire qui est une crise de sens qui touche les patients et les personnels. Et je pense que la crise que traverse l'art thérapie est liée à cela. D'ailleurs, dans les causes, hein, je voudrais aussi dire qu'il y aura une clarification très forte à faire, parce qu'une des causes des problèmes, c'est que les art thérapeutes, mais comme les médecins, comme les psychologues, etc., dans certains cas, sont massivement confrontés à des maladies, comme la démence d'Alzheimer, les maladies apparentées, comme l'autisme, qui sont des maladies qu'aujourd'hui, on n'en a pas trouvé, identifié les causes, et on n'a pas trouvé, malheureusement, de remède. Donc, parler de thérapie pour ces maladies est un abus de langage. Et donc, il faudrait revoir les missions, notamment y compris dans les structures qui les prennent en charge, qui devraient être plus des missions d'accompagnement pour une qualité de vie, pour un accès à la vie culturelle, d'accompagnement pour garder une dignité, pour la prévention de la perte d'autonomie, pour la lutte contre l'isolement, plutôt que de parler de thérapie. Bien sûr, dans certains cas, il y a des troubles qui sont consécutifs à ces maladies qui peuvent être pris en charge par des art-thérapeutes, par des psychologues, etc. Mais je crois que là, tout ça nécessite une grande clarification. Bon, excusez-moi d'avoir été un peu long. Dernier point, j'ai parlé de la santé mentale grande cause nationale. On a lancé aussi, avec une quinzaine de grands organismes nationaux, la marche pour la citoyenneté culturelle sur 2024-2025, qui va être l'occasion aussi de débats, de réunions de travail. Et je pense que là, les art-thérapeutes sont bien sûr invités, et sur ces thématiques, bien sûr, à apporter leur contribution. Merci beaucoup.